Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h42, on défait le monde effectivement dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Laurent Tessier ici en studio. L'info autrement jusqu'à 19h et voici le menu.
Ce soir, on défait le match train contre avion. Les billets de TGV de Noël sont en vente depuis ce matin et parfois le même trajet est beaucoup moins cher en avion. Vous allez comprendre pourquoi. Au menu également, quand la météo en Floride fait grimper le prix des oranges de votre supermarché, quand On défait le monde s'attaque au marathon des JO de Paris et quand les filets de pêche deviennent biodégradables. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
C'est presque déjà Noël à la SNCF, ouverture ce matin de la vente des billets pour les fêtes de fin d'année.
Et à cette occasion, ce matin, avec Laurent, on s'est livré à une petite expérience. Acheter au hasard des Paris-Marseille, aller-retour pour deux, sans carte de réduction, aller le vendredi 23 décembre le matin et retour le lundi 26 décembre le matin aussi.
Et on l'a fait pour un aller-retour en train avec la SNCF et en avion avec Air France. On a à chaque fois choisi les trajets les moins chers. Il était 8h43 ce matin face à nos ordinateurs.
Total, pour deux adultes sans carte de réduction, en train, 464 €. Total en avion, 287 €.
Oui. C'est moins cher en avion.
Voilà, 177 € de moins pour l'avion. Alors évidemment, l'avion, il faut aller à l'aéroport. Oui. Mais tout de même, près de 40% de moins pour l'avion face au train. Ça nous a donné envie de comprendre pourquoi.
Oui, comment expliquer qu'un voyage en avion puisse coûter moins cher qu'un voyage en train? Pourquoi le train coûte parfois si cher? Et quel est le mécanisme qui dicte une telle variation de prix?
Pour nous éclairer, on a contacté Arnaud Aimé. Il est expert transport chez SIA Partners. Et d'abord, on a voulu savoir si un avion, c'était vraiment beaucoup plus cher à acheter qu'un TGV.
Une rame TGV, ça coûte à peu près 30 millions d'euros, tandis qu'un avion moyen courrier, disons, c'est des prix qui peuvent être plus proches de 80-100 millions d'euros.
Donc si un train coûte trois fois moins cher à l'achat qu'un avion, les billets, ils devraient être moins chers?
Oui, mais non. Et c'est là où l'expert prend toute son importance.
Produire du train pour la SNCF ou produire des vols pour une compagnie aérienne, il n'y a pas forcément de gros écarts de coûts. Faire rouler des trains, ça coûte cher. Alors, les coûts de l'électricité qui explosent. Et puis aussi, faire rouler un train, ça nécessite non seulement d'avoir une gare de départ, une gare d'arrivée, mais entre les deux, on circule sur des rails. Et la SNCF, elle doit payer des péages pour pouvoir circuler sur les rails. A contrario, dans l'aérien, eh bien, entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, on est dans le ciel est gratuit. Et en plus, le coût de construction, des gares, des voies ferrées, c'est un coût qui est assumé majoritairement par les voyageurs. Et puis en plus, c'est beaucoup les pouvoirs publics qui ont payé historiquement pour, par exemple, la construction des aéroports, alors que c'est encore beaucoup le consommateur de la SNCF, le voyageur, qui paye pour tous les investissements qui ont été faits pour construire et maintenir les voies ferrées.
Et oui, dans le prix de votre billet de train, il y a les rails, leur fabrication, leur utilisation, leur entretien, une partie de la construction des gares et l'électricité. Alors que dans votre billet d'avion, grosso modo, il y a juste, entre guillemets, l'avion et le kérosène dont le prix est plutôt stable depuis quelques mois.
Ok, mais quand même, 40% de différence, c'est énorme.
Oui, mais en fait, c'est surtout une question de timing, parce que les prix ne cessent de changer tout le temps.
Quand vous regardez à un instant T, comme vous l'avez fait ce matin, vous pourrez avoir de grosses différences de prix, parce qu'en fait, les prix, ils évoluent en temps réel, à la seconde près, je veux dire, en fonction du niveau de remplissage du train et du vol. Ce matin, la SNCF, elle vendait 30 billets par seconde. C'est l'équivalent de 3 TGV qui sont remplis par minute. Si le vol se remplit moins bien que le train, eh bien, il y aura encore les petits prix pour un vol. Mais à contrario, si vous regardez plutôt les places disponibles dans les derniers jours, souvent, on trouve des prix de billets d'avion qui sont plus élevés, bien plus élevé même que des billets de train, parce que la SNCF, elle a des tarifs qui sont validés par le ministère et qui sont des tarifs plafonnés.
Alors que vous pouvez trouver en dernière minute un Paris-Marseille en avion à 1 000 €, ce qui est impossible pour un train. C'est une affaire d'offre et de demande à l'instant T, en fait.
30 billets vendus par seconde. Ouais. Ce matin, c'est fou quand même.
Ah oui, ça marchait fort. Ouais.
RTL, sous les radars.
On défait l'info passée sous les radars.
C'est un peu l'effet papillon, vous savez. Le prix des oranges dans votre supermarché va augmenter à cause de la météo à 7000 km de chez vous.
Oui, les prix sur le marché s'envolent depuis lundi, un niveau jamais vu depuis 6 ans. Principal responsable, l'ouragan Yann, vous en a beaucoup parlé ici, qui a violemment touché la Floride la semaine dernière, l'une des régions les plus productrices d'oranges des États-Unis. Eh bien, de nombreux fruits sont tombés, ont été abîmés alors que l'on était au début de la période de ramassage. La récolte s'annonce donc mauvaise, surtout que les vergers étaient frappée avant l'ouragan par une maladie bactérienne. Et bien résultat, le prix de la tonne de concentré de jus d'orange a augmenté de 100 dollars ces dernières heures.
Mais alors, elles représentent quoi ces oranges de Floride chez nous? On peut s'en passer, hein?
Alors environ une orange sur quatre que vous retrouvez en France, oui, vient de Floride et notamment dans certains produits.
Olivier Dauvers, c'est pas du local, hein?
Non, Olivier Dauvers, c'est expert de la grande distribution.
Les oranges de Floride qui arrivent en jus dans les grandes surfaces, c'est essentiellement des marques plutôt premium, plutôt haut de gamme, parce que la Floride a une image positive. Quand on achète des bouteilles de jus d'orange premier prix, c'est rarement de la Floride, c'est plutôt du Brésil ou de l'Espagne.
Espagne, Brésil pour trouver d'autres oranges, mais aussi Israël, le Maghreb. Mais avec les dernières actualités en Floride, les prix des bouteilles de jus d'orange vont augmenter et ça risque de durer puisqu'il faudra au moins deux saisons pour que les vergers retrouvent leur niveau de production d'avant l'ouragan.
Bon, on va se mettre au jus de pomme, au jus de poire, ça c'est local.
Ça, c'est local.
Et ça coûte moins cher. Allez, petite pause et on défait le monde continue dans RTL Soir. On va la retrouver, Nerissa Emani, notre reporter runneuse, au sommet du mur des marathons, du marathon des JO de Paris. Elle s'était lancée il y a un quart d'heure. Ça y est, elle est arrivée. On la retrouve juste après ça.
Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
On défait toujours le monde dans RTL Soir à 18h50. Et ce soir, la winneuse du jour, c'est la gagnante de notre fil rouge, la grande gagnante de cette rédaction.
Oui, c'est Nerissa Emani, journaliste à RTL, pilier dont défait le monde. Nerissa, qui vient de gravir la première côte de l'histoire des marathons aux Jeux Olympiques. La côte du tracé de Paris 2024 dévoilée aujourd'hui. La côte du pavé des gardes près de Versailles. Bon, ça y est, vous êtes arrivé. Nerissa.
Oui, vous m'avez fait transpirer. Hein. Je peux vous le dire. Il faisait très chaud le long de cette côte. Donc 800 mètres de pente en 6 minutes. Voilà.
Pas mal.
Ah, bien.
Je trouve que c'est quand même honorable.
Ouais. Non, mais vous avez la forme.
Parce que je fais un peu de sport quand même, tout de même. Je m'entraîne pas pour un marathon, mais je fais un peu de sport. Alors, ça grimpe très très fort d'un coup. Et c'est que vers les 200 derniers mètres que ça se calme un petit peu. Et puis ensuite, c'est du plat, donc c'est ouais, assez agréable. Il faut juste tenir le coup pendant 800 mètres. 13% de côte. Je vous le rappelle, il n'y a pas pire sur le Tour de France. J'ai même vu une dame à côté de moi qui poussait son vélo électrique à la main. Donc je pense que...
Vous avez couru tout du long ou vous avez marché à un moment donné?
J'ai couru tout du long, j'ai pensé très fort à vous, je me suis dit quand même, j'ai pas envie de me foutre la honte. Donc du coup, j'ai couru et puis je pense que même en voiture, il faut prendre un petit peu d'élan.
Défi.
Parce que ça fait travailler l'arrière des cuisses.
Relevé, bravo Nerissa. On pense aussi à tous les marathoniens, alors les spécialistes et puis les amateurs qui vont courir au JO de Paris 2024 et qui eux ne vont pas commencer à 0 km parce que ce sera au 27e kilomètre. Vous restez avec nous Nerissa, vous participez au duel de la soirée.
Le match des infos. Pour briller au dîner.
Face à Laurent, donc Nerissa, qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner?
Alors, Laurent a peut-être une chance de l'emporter ce soir, puisqu'il a choisi le plus célèbre des agents secrets pour nous aider à briller au dîner.
Oui, mon info pour briller, c'est que les films de la saga James Bond étaient dans le programme scolaire des écoles d'espionnage du bloc soviétique. Révélation faite par Marcus Wolf, le chef des services secrets de l'Allemagne de l'Est, la Stasi pendant près de 30 ans. On organisait donc des séances de diffusion pour les nouvelles recrues, futurs espions. Par exemple, James Bond 007 contre Dr No, bon baiser de Russie. C'était une manière de les sensibiliser aux espions occidentaux.
C'est étonnant, ça, comme info. C'est une bonne info pour briller au dîner, ça, ce soir. Place à Nerissa.
Exactement. Alors, vu qu'elle est en tenue de marathonienne en région parisienne au milieu des voitures, là. Vous allez briller avec ce tracé de cette fameuse côte, Nerissa.
Exactement. Je vais vous expliquer pourquoi la côte des gardes s'appelle la côte des gardes. Alors, c'est pas celle que je viens de monter, mais c'est celle
qu'on
que
descend
les marathoniens
après,
vont descendre. Pour ceux qui font le Paris-Versailles, ils sont habitués à la montée. Elle fait 2 km 200. Et bien, elle s'appelle comme ça parce que sous l'ancien régime, entre le 16e et le 18e siècle, le pavé des gardes était emprunté par les armées royales pour aller de la capitale au domaine de Versailles. D'où son nom, la famille royale, elle passait par la vallée de Marivelle, c'est à côté au niveau de Sèvres, pour éviter les fortes pentes. Donc c'était pour les armées et pour les rois, c'était pas les pentes.
Bon, je suis obligé de vous donner le point après l'effort que vous devez produire pour cette émission.
C'est de la pitié ça.
Non mais j'aime beaucoup James Bond.
Je vais aller grimper moi aussi.
Les 60 ans de James Bond aujourd'hui, j'adore aussi Laurent, mais là vous comprenez, je suis obligé de donner le point à Nerissa. Allez, RTL Soir continue dans quelques secondes, il y aura votre journal de 19h et puis on va défaire votre monde avec une avance génial, le filet de pêche qui ne pollue pas. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h56 minutes dans, allez, 3 minutes maintenant, 3 minutes et 5 secondes, votre journal de 19h. On défait toujours votre monde en attendant dans RTL Soir.
Une invention à laquelle on n'avait pas forcément pensé qui pourrait bien changer la face des océans, Laurent.
Oui, 3 étudiants ont créé un filet de pêche naturel et 100% biodégradable. L'objectif, c'est de limiter la pollution plastique dans les océans. Bonsoir Victor.
Bonsoir.
Votre invention a même été récompensée dans un concours parrainé par le célèbre explorateur Mike Horn. Comment vous est venue l'idée ?
Alors au départ, nous, ça nous est venu en regardant le documentaire choc sur Netflix, Seaspiracy, qui montre justement un peu le désastre écologique créé par les filets de pêche. Et en fait, la première chose qu'on a regardé après, après avoir vu ce documentaire, c'est est-ce que ça existait un filet de pêche biodégradable ? On a vu qu'il y avait pas vraiment de solution sur le marché, qu'il y avait plus des travaux de recherche. Et quand l'année dernière, on a eu l'occasion, on a connu l'existence du concours Pangaea X, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de lancer ça dans le cadre du concours. Et l'aventure était partie.
Expliquez-nous votre filet biodégradable, parce que du coup, il sert plus à rien s'il biodégrade.
C'est une excellente remarque. mais moi, je vais vous demander, est-ce que vous savez comment ils étaient faits avant l'arrivée du plastique ? Et bah, ils étaient faits en matière naturelle, ils étaient faits en coton. Ah. Et en fait, nous, l'idée, c'est que on aimerait bien reprendre... comme les méthodes de l'époque, c'est-à-dire reprendre des matières naturelles, mais les adapter avec les technologies modernes. Le topo de notre filet, c'est ça.
Il a une durée de vie et en fait, après, on peut le laisser, il va se dégrader tout seul, quoi.
Bah en fait, vu que c'est de la matière naturelle, c'est comme si vous jetez une branche dans l'eau, en fait. Ça va devenir de la matière organique avec la photosynthèse, ça va se transformer en matière organique, tout simplement, quoi.
Et alors, c'est tellement génial que vous avez participé, vous avez été invité sur le bateau de Mike Horn, l'aventurier bien connu, pour participer à une expérience avec lui, c'est ça ?
Alors c'est ça, en fait c'est pas une expérience, c'est plus une expédition. On va partir sur son bateau Pangaea pendant je crois une petite semaine au Groenland. C'était un peu le but ultime du programme, la récompense ultime, c'était de vivre quelque chose de fort avec Mike et toute son équipe, ouais.
Et juste, vous avez eu des retours des professionnels de la pêche là-dessus ou pas encore, ils connaissent pas encore votre produit ?
En fait, nous, on est allé au contact des pêcheurs. Donc moi, je suis allé en Bretagne et puis un de mes camarades d'aventure là, il est allé en Martinique cet été. Et en fait, on est allé voir les pêcheurs, leur poser des questions, voir leur méthode de pêche, etc. Et ils sont prêts à adopter notre filet. À le tester en conditions réelles et à changer leurs habitudes, donc c'est vraiment très positif et ce qui a bien aussi appuyé notre dossier lors de la finale.
Eh bien merci Victor, on prendra de vos nouvelles parce que je rappelle votre expédition au mois de mars au Groenland sur le bateau de l'aventurier Mike Horn. Merci à vous, bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée Victor et merci à vous, merci. Les amis dont défait le monde, on se retrouve demain 18h40 dans RTL Soir.